CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, nous sommes le 23 février 2026, c'est déjà la 130e. Qu'est-ce que le temps passe ? Toujours motivé, toujours autour de cette table. Monique, de quoi vas-tu nous parler ?
Eh bien, la deuxième partie sur la sécurité sociale environnementale. Hein. On a évoqué les problèmes d'alimentation la semaine dernière. Là, on va aborder celui de l'eau douce et également d'autres risques climatiques.
Et voilà, c'est parfait. Et Jean Barbard, on va parler musique, je crois.
Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler effectivement d'un marché qui fait battre les cœurs, qui éveille les consciences et qui rapporte plus que jamais.
C'est parfait. Et puis Clément, aujourd'hui, tu ne vas pas parler d'un aliment.
Non, je vais parler de bocaux. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et ben, je vais vous expliquer ce que je fais avec mes vieux bocaux.
Parfait, c'est parti pour la 130e Radio VC.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Monique, on a traité la semaine dernière de la sécurité sociale alimentaire, mais il y a un autre problème essentiel de l'alimentation, c'est l'eau à la base. Et pourtant, est-ce que l'eau douce, ça semble, a priori, on dirait pas que ça manque en France.
Alors c'est vrai, mais un rapport de France Stratégie révèle qu'entre les périodes 1990 et 2001 et 2002-2018, le volume de l'eau disponible a baissé de 14%. Essentiellement du fait de la baisse des précipitations et de l'augmentation de l'évapotranspiration favorisée par des températures plus élevées. Ah. La question se pose, d'une part, de l'accès à l'eau potable des publics les plus précaires et de la lutte contre le gaspillage de l'eau. C'est ce à quoi ont réfléchi des collectivités comme Lyon, Marseille, Dunkerque, Arcueil, qui ont mis en place des régies publiques locales et une tarification sociale de l'eau, avec gratuité des 12 premiers mètres cubes pour les personnes en dessous du seuil de pauvreté. Ces stratégies des territoires esquissent ce qui pourrait constituer un jour un service public national de l'eau.
Bah oui, c'est que tout le monde a besoin de boire, a priori. Hein. Et finalement, on voit que c'est très lié à un risque climatique. C'est quoi les autres risques en la matière ?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a le fameux problème du retrait-gonflement des argiles. Hein. Sur les biens immobiliers, ça concerne de nombreux territoires. Les mouvements des sols argileux provoquent des dégâts majeurs sur de nombreuses habitations. Les argiles se rétractent en cas de sécheresse et se gonflent en cas de forte pluviométrie. On estime aujourd'hui que 10 millions de maisons individuelles sont exposées à ce risque. On a vu très récemment aussi les dégâts produits par les inondations et on peut parler du recul important de la côte en bord de mer, effondrement de falaises ou recul des dunes. Toutes ces situations posent la question d'une assurance sociale face au risque de catastrophe naturelle. Le régime d'indemnisation qui a été instauré en 1982, dont le financement repose sur une surtaxe obligatoire sur les assurances de biens, n'apparaît plus suffisamment robuste pour faire face durablement au changement climatique. Selon la Caisse centrale de réassurance, la sinistralité devrait augmenter d'environ 40% à l'horizon 2050, en raison des seuls aléas naturels.
Ouais.
La sinistralité sécheresse.
Mais c'est un beau mot. Hein.
C'est beau, hein, j'ai eu du mal, mais c'est un beau mot. Représentera 43 milliards d'euros entre 2020 et 2050, alors qu'elle n'avait représenté que 13,8 milliards d'euros entre 1989 et 2020. Dans ce cadre, le renforcement du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles constitue bien une priorité. À moyen terme, la construction d'un système assurantiel plus robuste pour faire face à la fréquence et au coût croissant des catastrophes liées au changement climatique implique de mobiliser d'autres mécanismes de financement à travers, par exemple, la mise à contribution des énergies fossiles.
Ouais, c'est là où on voit qu'en fait, il est plus coûteux de ne pas prendre en compte les éléments de la crise écologique que de les prendre en compte.
Et il faut aussi se poser la question de l'intégration progressive des risques climatiques dans le droit du travail. Des seuils de température au-delà ou en deçà desquels l'inspection du travail est en droit d'imposer un arrêt temporaire d'activité ou encore un congé payé climatique pour éviter des déplacements en cas d'alerte inondation, par exemple. En Espagne, suite aux inondations meurtrières à Valence, Le gouvernement a mis en place ce congé payé de 4 jours. C'est, on peut dire, l'une des premières lois de sécurité sociale écologique en Europe. Il faut aussi penser au droit à la reconversion écologique face au bouleversement de l'emploi. Un droit qui garantisse la prise en charge d'un parcours de formation certifiant de longue durée, sans reste à charge, et le maintien de la rémunération pendant la formation. En gros, une sécurité sociale professionnelle face aux mutations d'emploi. Et bien sûr, la question du logement. 4 millions de Français ont eu froid dans leur logement en 2024. Le logement constitue un levier fondamental dans la lutte contre le dérèglement climatique et pour le droit de vivre dignement. Et là, justice sociale et environnementale convergent pour mettre en place un vaste plan au droit au logement écologique. Il faut conjuguer à la fois la construction de nouveaux logements aux normes, des loyers à des prix abordables, la rénovation des logements peu adaptés au froid ou aux canicules et le respect d'un objectif de zéro artificialisation. Un chantier d'ampleur pour toutes les communes et qui nécessite une volonté politique nationale.
Oui, donc c'est beaucoup de chantiers différents finalement qu'on aborde depuis la semaine dernière et qui pourraient être des nouveaux piliers pour la sécurité sociale au XXIe siècle. Merci beaucoup Monique et on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Mais tout de suite la chronique de Jean Barbard.
De tout et de rien avec Jean Barbard.
Mesdames, Messieurs, à votre avis, quand on vous annonce plus 10% de redistribution aux artistes en un an, est-ce qu'on parle enfin de justice culturelle ou simplement d'un très bon communiqué de presse ? Allez, installez-vous, Jonathan Bohr lance les platines. Il y a peu, Spotify fanfaronnait. Plus de 11 milliards de dollars reversés à l'industrie musicale en 2025, soit une hausse de 10% par rapport à l'an dernier. Record battu. Champagne algorithmique. Sauf que, vous la sentez venir. L'arbre cache une forêt dense, sombre et soigneusement tondue. Petit rappel de contexte. Ces milliards ne vont pas aux artistes, mais aux détenteurs de droits. Majors, éditeurs, distributeurs. Et dans ce grand jeu de bonneteau numérique, l'artiste est souvent la petite bille qu'on oublie sous la table. Résultat, chez les majors, il reste parfois 15% des royalties. Le reste, marketing, avance, structure et surtout inertie. Alors le chiffre a un bal. Sur les 11 à 12 millions d'artistes présents sur Spotify, combien gagnent plus de 100 000 $ par an grâce au streaming seul ?
Alors déjà, 11 millions d'artistes sur Spotify.
Ouais, 11 à 12 millions.
C'est impressionnant.
C'est
donc oui, on se doute bien qu'ils ne doivent pas être très nombreux à en vivre bien. Je ne sais pas du tout.
Les taux se resserrent.
Oui, c'est ça.
Alors, 1 ou 2%.
1 ou 2%. Alors en pourcent, c'est... Non, c'est beaucoup moins.
Ah ouais.
Voilà.
D'accord.
0,5%.
C'est moins encore.
Voilà. 0,2%.
On y est presque, on y est presque.
En fait, ils sont deux, quoi.
Eh ben non, en fait, ils sont environ 12 500 artistes.
D'accord.
Donc, pour faire le calcul, c'est encore moins que le reste de l'économie.
Y compris c'est... Florent Pagny.
Ouais, Florent Pagny, je ne sais pas s'il excède les 100 000 $. Toutefois, ça fait 1 pour 1000. Et j'ai vérifié dedans, il n'y a pas Radio VCE.
Ah,
mais écoute-toi, Jonathan Bohr, qu'est-ce qu'on va faire ?
Non, c'est sûr.
Le reste, c'est ce qu'on appelle publiquement la long tail et brutalement la précarité. Mais le vrai sujet, il est là. La musique, l'art, la culture, ce ne sont pas des tapis d'ambiance pour Open Space. Historiquement, ce sont des agitateurs de sens commun, des producteurs de frottements, des créateurs de conflits féconds. Or, que fait l'économie de plateforme ? Elle adoucit, elle lisse, elle transforme l'œuvre en contenu, la chanson en flux, l'artiste en variable d'ajustement algorithmique. La playlist remplace l'album. Le refrain arrive à 20 secondes, le morceau raccourci pour éviter le skip, et surtout on ne dérange plus, on accompagne, on lubrifie les journées. Bienvenue dans la musicalisation du monde. Pendant ce temps, les majors sécurisent. Elles signent du déjà viral, elles testent sur TikTok avant de croire au talent, elles fabriquent de la nostalgie parce que l'audace, ça fait peur au tableur. Alors oui, Spotify redistribue plus, mais plus d'argent dans un système qui appauvrit le sens. Ce n'est pas un progrès culturel, c'est une anesthésie mieux financée. Pour finir, la question n'est pas combien rapporte la musique, la vraie question citoyenne, politique, presque intime, est quelle musique ce modèle façonne.
Ah, c'est sûr. Et qu'en plus, toutes les IA génératives qui font de la lofi au maître.
En boucle, exactement.
C'est impressionnant ce qui se passe. Merci beaucoup Jean Barbard.
On
se retrouve la semaine prochaine. Mais tout de suite, c'est la rubrique À table.
À table avec Clément Chassin.
Donc, comme on disait, exceptionnellement, on ne va pas manger aujourd'hui.
Non, oui, c'est ça, j'allais vous parler de mes placards. D'ailleurs, j'allais vous parler, en fait, de là, en fait, cette semaine, je me suis fait une petite sauce tomate maison, là, je me suis fait un petit plaisir, c'était super bon. Et personne ne me dit « Quoi, une sauce tomate en plein mois de février ?» Mais moi qui parle toujours des légumes de saison, tout ça.
C'est vrai.
Ben oui, mais alors vous n'avez pas écouté la chronique que j'ai fait en octobre. Et oui, en octobre, j'ai fait une chronique où j'avais parlé du chutney de tomates vertes. Voilà, je m'étais fait des petits bocaux. Et ben, plus de trois mois après, mon petit bocal, il était nickel, il n'avait pas bougé. Et du coup, ouais, j'ai mangé des tomates bio, locales, cuisiné par moi-même, donc deux saisons puisqu'elles ont poussé l'automne dernier, et en plein mois de février, et voilà, et le mieux, en fait, là-dedans, c'est que ça m'a pris juste le temps d'ouvrir le bocal, en fait. En 10 secondes, c'était prêt. C'est quand même formidable.
Et qu'est-ce que t'as mangé avec ta sauce tomate ?
Je l'ai mis avec du riz. Je l'ai mis avec du riz, voilà. Du coup, je me suis dit, voilà, je pourrais vous parler de ce que j'ai fait ce week-end. Alors, après ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Voilà, et ben, j'ai fait des bocaux. Voilà, j'ai fait des pickles ce week-end. Voilà, parce que là, en ce moment, justement, on est en plein dans la saison d'hiver. Là, il y a plein de légumes qui poussent. Là, en ce moment, vous avez des navets, des carottes, vous avez plein
des
de trucs.
Des
topinambours. Au hasard.
Ouais, bon, voilà, des radis, des betteraves. Enfin, là, en ce moment... On est vraiment dans la saison agricole en plein. C'est le moment d'y aller, d'acheter des légumes. Et du coup, voilà, on peut typiquement en faire des pickles. Rapidement, je vous fais la recette des pickles. Et puis, je vous redis après pourquoi c'est vachement bien. Donc, vous prenez des bocaux. Voilà. Donc, alors, dans l'idéal, si vous avez les jolis bocaux, là, avec la rondelle en caoutchouc, tout ça... Voilà, bon, sinon, moi, je fais avec mes vieux pots de confiture, mes pots de moutarde, enfin, tous les bocaux qui ferment, tant qu'ils ferment bien, ça marche. Voilà, donc, juste, je les ébouillante quand même.
Pour la stérilisation.
Voilà, pour la stérilisation. Pendant ce temps, alors, je prépare ce que je vais mettre dedans. Alors, pour les pickles, alors, j'ai trouvé une recette qui est géniale, c'est le mélange 1, 2, 3. 100 g de sucre, 200 g de vinaigre blanc, 300 g d'eau. Et voilà, et on porte à ébullition. Voilà, alors, je dis, là, je le donne en grammes, je vous rappelle, un litre d'eau, ça fait... Ça fait lourd, hein.
Ça fait un kilo.
Un kilo, voilà, et du coup, 100 grammes d'eau, ça fait 10 centilitres. C'est facile à mesurer.
Ok, oui.
Voilà, plutôt que de peser l'eau, oui, là, je donne l'eau en grammes, mais voilà, en fait...
C'est vrai.
Le calcul se fait facilement.
Je me rappelle comment ça dit, du vinaigre blanc.
Oui, la Monique prend des notes, hein.
Alors, 100 g de sucre, 200 g de vinaigre blanc, 300 g d'eau.
1, 2, 3.
Voilà, le mélange 1, 2, 3. Voilà, tu mets dans une casserole, tu portes à ébullition. Pendant ce temps-là, tu prends tes légumes, alors tu les laves bien ou tu les épluches. Alors, ça dépend des légumes. Typiquement, les carottes, ça ne s'épluche pas. Voilà. Par contre, la betterave ou le radis noir, vaut mieux les éplucher. Voilà. Tu les coupes en quartiers, en tronçons, en bâtonnets. Ça dépend des goûts. Faut un bon truc à retenir, c'est se dire à peu près la taille d'un concombre. D'un cornichon. À peu près la taille d'un cornichon.
Ah, c'est pas la même taille.
Oui, donc...
Mais c'est la même chose.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Sauf que le cornichon, voilà. Non, mais en plus, les cornichons, on a l'habitude d'aller voir en bocaux. Donc, à peu près la taille d'un cornichon. Voilà, donc des petits morceaux. Tu mets tes légumes dans les bocaux. Tu ajoutes ton mélange 1, 2, 3 qui est encore tout chaud. Tu laisses reposer. Alors, la recette que j'ai, ils disent au moins 4 heures. Bon, moi, j'avoue, j'ai fait ça, j'ai laissé la nuit. Hein. Et puis, le lendemain matin, j'ai mis mes bocaux au frais. C'est quand même meilleur après quelques jours. Attendez quelques jours. Voilà, il y en a qui disent une semaine. Enfin, bon, voilà. Vous attendez quelques jours, le temps que ça se fasse bien. Et puis, après, ça peut se conserver des mois. Tant que vous n'ouvrez pas le bocal, voilà. Une fois que vous l'ouvrez, vous le mangez dans la semaine, tranquillement, voilà. Voilà, bon, alors pourquoi je me suis donné tout ce mal, à part pour pouvoir venir à la radio et dire « c'est moi qui l'ai fait !» Voilà. Et pour pouvoir manger des légumes hors saison, c'est vrai que là, dans quelques mois, je serai content d'avoir mes bocaux. Sauf que ce serait moins embêtant de me contenter d'aller acheter des conserves dans le commerce, quand même. Je suis un peu idiot, là, des fois. Mais non, parce qu'en achetant et en préparant mes légumes de saison, c'est pas cher. Et voilà. Oui. C'est pas cher. 2, j'aide directement les petits producteurs locaux. Voilà, tout à l'heure, tu nous parlais des ressources en eau, tout ça. Les petits producteurs indépendants, bio, tout ça, eh ben, c'est un acteur majeur de la protection des ressources en eau, de la protection de nos environnements, de nos haies, de nos sols, tout ça. Donc, protégeons nos petits agriculteurs. Et puis, je sais ce que je mange. je sais ce que je mets dedans. Alors là, vous me direz, ah bah ouais, mais il y a du sucre dans ce que t'as mis. Bah justement, oui, je sais. Alors, oui, je suis conscient de ce que je mange, et ça me permet aussi de faire attention à ce que je mange. Et puis, bon, vous avez vu ce qu'il y a comme sucre dans les plats préparés du commerce ? Voilà, et je ne vous parle pas du sel, du glutamate de sodium, des huiles hydrogénées, des exhausteurs de goût, des colorants, des conservateurs. Voilà, là, je peux faire une recette qui correspond à mes goûts. Alors, je vous disais donc 1, 2, 3, sucre, vinaigre, eau. Mais on peut aussi y mettre des épices, on peut y mettre des grains de poivre, on peut y mettre des grains de cumin, on peut changer de vinaigre, on peut mettre tiens, du vinaigre de cidre, on peut mettre une branche d'estragon.
On peut mettre du calva.
C'est la variante
normande. On va rester au vinaigre de cidre, éventuellement. Mais bon, voilà, une branche d'estragon. Il y a une amie récemment qui m'a donné une recette de pickles de radis noir en tranches avec du gingembre râpé. Ça doit pas être mauvais, ça. Mm-hmm. Ben voilà, il y en a plein de recettes. J'en ai volontairement donné une très simple parce que ça vous permet comme ça de faire à votre goût, d'essayer. Et parce qu'il ne faut pas oublier que la cuisine, c'est avant tout pour
du
se
plaisir.
Faire plaisir et pour partager. Parce que les pickles, après, on peut aussi les partager à l'apéro.
Super.
Donc voilà, vous saurez quoi faire avant de jeter votre prochain bocal de moutarde. On se retrouve la semaine prochaine. C'était une nouvelle fois toute l'équipe réunie. Et moi-même, Jonathan Bord à l'animation. On se retrouve dans une semaine. À bientôt.